C'est donc aujourd'hui la fête de l'Immaculée Conception. À la messe, nous faisons mémoire du deuxième dimanche de l'Avent. La messe de 9 heures a été offerte pour les fidèles qui fréquentent le couvent à toutes leurs intentions. C'est aujourd'hui la journée du tiers-ordre dominicain de 10 heures à 17 heures. À 17 heures, vêpres et salut du Très-Saint-Sacrement. Nous vous donnons rendez-vous à 19 heures ce soir au Tertre Saint-Laurent dans le quartier de la Doutre pour la procession en ville en l'honneur de Notre-Dame. La procession partira du Tertre Saint-Laurent et y retournera après avoir fait le tour de la cathédrale. Soyons nombreux à fêter et honorer publiquement Notre-Dame, reine du ciel et de la terre, et à lui confier nos personnes, nos familles, notre pays. Et prions pour le beau temps. Tous les jours de la semaine, messe à 6h30 et 10h. Mercredi prochain, 11 décembre, fête de Saint Damase, sera le 18e anniversaire du rappel à Dieu de notre frère Marie-Joseph, notre premier frère convert. Une messe de Requiem sera chantée à 10h pour le repos de son âme. Sur notre table de presse, vous trouverez l'ordo 2020 des petites sœurs de Saint François d'Assise et un calendrier mural. Vous trouverez aussi différents livres pour vos cadeaux de Noël et des cartes de vœux. Dimanche prochain, 15 décembre, troisième dimanche de l'Avent, sera la fête de l'école Sainte-Philomène. À 14h, salle Notre-Dame-des-Anges, pour les parents, bilan du trimestre. À 15h30, au chêne Fournier, spectacle de Noël donné par les enfants, suivi d'un goûter à 17h30. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes frères, Dieu, en créant le premier homme et la première femme en état de grâce, en leur accordant un ensemble de dons qui les empêchaient en particulier de souffrir et de mourir, et en les plaçant dans un paradis de délices, Dieu savait que cela ne durerait pas longtemps. Il avait laissé à nos premiers parents la faculté de choisir leur destinée, et il savait qu'ils succomberaient, comme les mauvais anges, à la tentation de vouloir être indépendants, de ne plus avoir à se soumettre à Dieu. Par leur révolte, le premier homme et la première femme ont perdu leurs beaux privilèges. La maladie, la souffrance, la mort sont entrés dans le monde, et Adam a transmis à toute sa postérité ce qu'on appelle le péché originel. Nous naissons tous privés de la grâce sanctifiante, blessés dans notre nature, fragiles à toutes les tentations d'orgueil, d'égoïsme, d'impureté, et qui sont source d'une multitude de péchés qui amènent dans le monde la décadence des mœurs, les injustices, les guerres, les révolutions. On pourrait dire, pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme en sachant qu'il tomberait ? D'abord, ce n'est pas Dieu qui a fait tomber l'homme. Ensuite, Dieu a voulu laisser à l'homme le libre choix de sa destinée. Et surtout, si Dieu a permis le péché du premier homme avec toutes ses conséquences, c'est parce qu'il avait en vue un bien beaucoup plus important que si Adam et Ève n'avaient pas péché. Dieu n'est jamais vaincu par le mal. Quel est ce bien ? Quel est ce plan magnifique qui allait sortir de la mystérieuse permission divine ? Eh bien, Dieu a voulu le révéler dès la chute d'Adam. C'est au chapitre 3e du livre de la Genèse, lorsque Dieu dit au serpent « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, elle t'écrasera la tête et tu la mordras au talon. » Dès la chute, Dieu annonce donc son plan de restauration. La femme dont il s'agit ici, c'est la Vierge Marie. Sa descendance, c'est d'abord notre Seigneur, le Verbe de Dieu, prenant notre nature humaine du sein de Notre-Dame. L'homme était tombé, il était devenu l'esclave du démon. Dieu descendra du ciel pour le délivrer. Alors un combat terrible se livra entre notre Seigneur et le démon, combat dont l'apogée eut lieu le Vendredi Saint. Réparant tous les péchés de l'humanité par sa mort sur la croix, notre Seigneur méritait le salut et la délivrance de l'esclavage du démon pour toutes les âmes de bonne volonté jusqu'à la fin du monde. Du côté percé de Jésus, en effet, naquit l'Église, qui est le corps mystique du Christ, dont il est la tête et dont nous sommes les membres. Dans le premier plan de Dieu, c'est un homme, un simple homme, Adam, qui aurait été notre chef s'il était resté fidèle. Dans le second plan, le plus merveilleux, celui de la rédemption, notre chef est le Verbe de Dieu incarné, avec qui nous formons un seul corps, vivant de sa vie divine, et dont les membres ne peuvent pas tomber sous l'esclavage du démon tant qu'ils restent unis à ce corps. Aujourd'hui, mes frères, nous fêtons les prémices de la victoire. Puisque dans sa sagesse infinie, Dieu avait voulu de toute éternité que le Sauveur naquît du sein de la Vierge Marie, eh bien c'est avec le plus grand soin qu'il prépara pour son Fils bien-aimé un tabernacle digne de sa sainteté infinie. La bienheureuse Vierge Marie, dans le premier instant de sa conception, a été, par une grâce et un privilège spécial du Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ, Sauveur du genre humain, préservé et exempte de toute tâche du péché originel. Ces paroles sont du pape Pie IX, définissant infailliblement le dogme de l'Immaculée Conception le 8 décembre 1854. Mais l'Immaculée Conception de Notre-Dame, ce n'est pas seulement une absence, l'absence du péché originel. C'est surtout une présence, la présence de la grâce sanctifiante à un degré incomparable. Continuons la lecture de Pie IX. Dieu combla la Vierge Marie bien plus que tous les esprits angéliques, bien plus que tous les saints, de l'abondance de toutes les grâces célestes. Et il l'enrichit avec une profusion merveilleuse, afin qu'elle fût toujours sans aucune tâche, entièrement exempte de l'esclavage du péché, toute belle, toute parfaite, et dans une telle plénitude d'innocence et de sainteté qu'on ne peut au-dessous de Dieu en concevoir une plus grande, et que nulle autre pensée que celle de Dieu même ne peut en concevoir la grandeur. L'absence du péché originel en Notre-Dame l'exemptait aussi des conséquences de ce péché. En elle ne se trouvait pas ce qu'on appelle le foyer de convoitise, cette faiblesse de notre sensibilité qui la rend si vulnérable aux tentations. Aucun mouvement de la sensibilité ne pouvait détourner la Vierge Marie de son union permanente avec Dieu. Les litanies l'appellent tour d'ivoire, très pur miroir de Dieu. Ayant ses passions parfaitement apaisées et disciplinées, elle n'était jamais sujette à l'erreur, à l'illusion. Quand elle n'avait pas la lumière sur une chose, elle suspendait son jugement et elle évitait la précipitation. Là, c'est peut-être un exemple pour nous. L'Église lui donne ici les titres de siège de la sagesse, reine des docteurs, vierge très prudente, mère du bon conseil. Mais il faut aller encore plus loin. Le Concile de Trente affirme que par un privilège spécial, la Très Sainte Vierge a même évité tout péché véniel. C'est ce qu'on appelle son privilège d'impeccabilité, conséquence de sa dignité unique de Mère de Dieu et Mère du Rédempteur. Écoutons saint Augustin. Pour l'honneur de son Fils qui devait remettre les péchés du monde, il ne saurait être question d'elle quand il s'agit du péché. On peut poser une question, le fait de ne pas même pouvoir pécher diminuait-il la liberté de Notre-Dame? Au contraire, elle pouvait se donner en toute liberté à toutes les volontés de Dieu sans être freinée par les tentations ou le péché, ce qui méritait pour son âme à chaque instant une augmentation continuelle de la grâce. Et comme la grâce est ordonnée à la gloire en passant par la croix, tout cela prédisposait en même temps Notre-Dame, la préparait à se retrouver le vendredi saint au calvaire pour racheter tous les hommes dans les souffrances avec son Fils. La conception de Notre-Dame, sa conception immaculée, est l'un des événements les plus importants de l'histoire du monde, parce qu'elle ouvre pour l'humanité une ère nouvelle, un monde nouveau, où le démon n'a aucune entrée, où le péché n'a plus aucune part. Un homme et une femme, Adam et Ève, sont à l'origine de l'ancien monde, esclaves du démon, que nous voyons aujourd'hui se dégrader, se décomposer de jour en jour. Une Vierge immaculée et son Fils, un Dieu fait homme, sont les prémices, le modèle, la source d'une humanité nouvelle, régénérée par la grâce. Et nous voilà au cœur de notre religion. La religion chrétienne, ce n'est pas un ensemble de pratiques religieuses extérieures ayant plus ou moins de conséquences dans notre manière de vivre. À la base, au cœur de notre religion, il y a une transformation profonde de notre être, de notre nature, par la grâce sanctifiante. Le bon Dieu aurait pu nous donner une destinée purement naturelle, nous préparer un bonheur de cette terre. On lui aurait été reconnaissant. Mais le bon Dieu a eu davantage d'amour et d'ambition pour nous. Il a voulu nous introduire dans la famille de la Sainte Trinité pour que nous puissions participer au bonheur de Dieu pour toute l'éternité. Et pour cela, Dieu a dû élever notre âme au-dessus de la nature humaine par la grâce sanctifiante, qui est une participation de la nature divine, dit saint Pierre, qui est comme un reflet de Dieu sur notre âme, qui élève notre nature au-dessus de celle des hommes qui n'ont pas la grâce parce qu'ils refusent ce plan de Dieu et qu'ils préfèrent vivre dans le péché. Saint Thomas d'Aquin dit que le moindre degré de grâce sanctifiante dans une âme vaut plus que le bien naturel de tout l'univers. Parce que tout l'univers, aussi immense soit-il, n'est que quelque chose de naturel. Tandis que le moindre degré de grâce sanctifiante dans le petit bébé qui vient de se faire baptiser, c'est une participation à la nature du Dieu infini. Dans le même sens, saint Thomas dit encore que le passage de l'état de péché mortel à l'état de grâce, c'est une chose plus grande que la création du ciel et de la terre. Quand quelqu'un est en état de péché mortel et qu'il se confesse, qu'il reçoit l'absolution, ce qui se passe dans son âme, c'est une chose plus grande que la création du ciel et de la terre. Parce que la création, c'est le passage du néant à quelque chose de naturel, tandis que le passage du péché mortel à l'état de grâce, c'est un passage à une participation du divin. Mais il faut aller encore plus loin. La grâce n'est qu'un début. Elle est une condition, la condition première et essentielle pour que la Sainte Trinité tout entière vienne habiter dans notre âme, comme si Dieu était impatient. Oui, Dieu ne veut pas attendre le ciel pour nous faire participer à sa vie. Il vient habiter dès maintenant dans notre âme, au plus intime de nous-mêmes, pour transformer notre vie. Qu'est-ce que j'aurai de plus quand je serai au ciel, dit sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Je verrai Dieu, oui, mais pour le posséder, je le possède dès maintenant. La vie chrétienne, c'est donc éviter et combattre toutes les occasions de péché pour vivre avec Dieu qui habite dans notre âme. Et vivre avec Dieu qui habite dans notre âme, c'est s'efforcer de faire sa volonté à chaque instant, avec son aide, en s'appuyant sur lui, parce que sans lui nous ne pouvons rien faire, dit notre Seigneur. Et ceci, eh bien, c'est le secret du bonheur et la solution à tous les problèmes de notre vie et à tous les problèmes du monde. Le premier homme, Adam, par son péché, avait perdu la grâce pour tout le genre humain. Le sang d'un Dieu nous l'a rendu, et sa mère en est maintenant la médiatrice universelle et la distributrice. Lucifer, qui a perdu la grâce pour toujours, essaye dans sa rage d'entraîner le plus d'hommes possible dans sa défaite, en les faisant tomber dans le péché mortel, surtout par la perte de la foi et l'impureté aujourd'hui. En cette fête de l'Immaculée Conception, comme nous le fait chanter une des anciennes de la liturgie de ce jour, laissons-nous attirer par la pureté de la Vierge Marie. Demandons-lui qu'elle nous aide à garder dans nos âmes le trésor de la grâce pour vivre en vrai chrétien, pour échapper à l'esclavage du démon et pour mériter ainsi de la retrouver un jour au ciel avec son Fils et avec tous les saints. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.